Sujet numéro 2, notre deuxième rubrique, comme tous les mois, c'est l'association du mois. Mais nous sommes aujourd'hui à la Salvetat et nous avons décidé de parler de ce grand territoire où se trouve la Salvetat, c'est-à-dire le Haut-Languedoc. Et pour en parler avec nous, Emmanuel Forichon, bonjour.
Bonjour.
De l'association France Nature Environnement. Alors, le Haut-Languedoc, contez-nous un petit peu ce territoire.
Eh bien, pour nous, du Haut-Languedoc, quand on descend, on va dans le Bas-Languedoc. Et il n'y a pas que nous qui descendons dans le Bas-Languedoc. Il y a beaucoup de choses qui descendent du Haut-Languedoc. Et on en parlera à propos de la biodiversité.
Parlez-nous un petit peu de votre association.
Alors, France Nature Environnement, c'est une ONG nationale qui se décline dans les régions par des fédérations. Nous avons en Occitanie deux fédérations importantes, héritières de l'ancien partage entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et nous collaborons ensemble avec toutes les associations adhérentes à la défense de l'environnement et de la nature.
Sous toutes ses formes.
Sous toutes ses formes, même celles qui sont invisibles.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on va en parler parce que la biodiversité, ce n'est pas simplement les oiseaux qu'on voit ou qu'on entend, les arbres, les végétaux, les fleurs, etc. La biodiversité, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas qui est dans le sol, les insectes microscopiques, les petites bactéries, les champignons qui concourent tous au vivant.
Et alors, d'après ce que j'ai lu, cette biodiversité serait en danger ici. Comment ?
Elle est d'abord très riche. Il faut être positif. Il faut la voir comme une très grande richesse. Et le Haut-Languedoc est particulièrement bien doté. Pour une raison particulière, c'est que le Haut-Languedoc est à cheval sur les deux versants, méditerranéen et atlantique, et qu'il est en même temps marqué par le climat montagnard et par des climats intermédiaires. Et donc, il y a une très grande richesse liée à la fois à l'altitude et aux variations climatiques entre les deux versants. Et ça nous donne une très grande variété de systèmes, d'écosystèmes qui sont extrêmement importants à protéger. Et ces écosystèmes n'ont pas d'effet que sur le territoire du Haut-Languedoc. Ils ont des effets sur les territoires en aval et en particulier, on en parlera tout à l'heure peut-être davantage, c'est une contribution sous forme de réservoirs d'eau importants pour les plaines, pour l'agriculture, pour les habitants et pour également une influence sur le climat, ce qui est important aussi, et puis une influence sur la bonne mentalité, la bonne santé, parce que je pense que les gens de la plaine seront contents de monter dans nos de venir ici dans le Haut-Languedoc, savourer la beauté des paysages et le bon air et la beauté de la nature.
Le problème de l'eau est annoncé comme un des graves problèmes mondiaux. Au niveau de la planète, suite au réchauffement climatique, ici, quelle est la situation ?
La situation est plutôt bonne dans le Haut-Languedoc parce que nous sommes arrosés tantôt par les vents de l'Atlantique, tantôt par les vents de la Méditerranée, quelquefois un peu trop quand il y a des épisodes cévenol. Mais en tout cas, ici se constituent les réserves qui doivent pouvoir entrer. Il y a une règle qui doit être retenue, c'est que chaque goutte d'eau doit pénétrer le sol à l'endroit où elle tombe. Si elle ne pénètre pas le sol, c'est une perte sèche, c'est le cas de le dire. Il faut que la goutte d'eau puisse entrer. Et pour qu'elle entre dans le sol correctement, il faut que le sol soit respecté. Et pour que le sol soit respecté, ça veut dire qu'il ne faut pas que les aménagements fassent une agression à ces sols. On pourra développer tout à l'heure si vous voulez.
Non, mais allez-y, ça veut dire quoi ? Si la goutte, elle tombe et qu'elle ne s'infiltre pas, à cause de quoi ?
Eh bien, prenons l'exemple d'une piste qu'on va tracer dans un milieu naturel. Une piste à usage forestier ou une piste à usage agricole ou une piste pour desservir un aménagement, une éolienne, eh bien cette piste, elle est revêtue, rarement goudronnée, mais souvent très tassée, et là l'eau ne pénètre pas, ne peut pas rentrer. Elle est aussi équipée avec des fossés. Et dans ces fossés, l'eau, au lieu de pénétrer, elle va être accélérée. Et donc on entre dans un processus qui favorise les crues. Donc tout ce qu'on va modifier dans la pénétration de l'eau, non seulement réduira la possibilité de retenir l'eau et de faire des réserves locales d'eau qui ensuite sont diffusées lentement vers les plaines, mais en plus on va l'accélérer et donc on va augmenter les phénomènes d'érosion et de crue.
Oui, mais quand même, l'homme, il a occupé la forêt, il faut bien qu'il fasse des chemins pour se déplacer, peut-être pour canaliser l'eau aussi. Moi, je pensais que quand on parlait d'eau qui ne s'infiltre pas, on parlait de goudronnage, de bétonnage. Là, vous me dites même de chemins en terre.
Parce que je vous parle des espaces naturels du Haut-Languedoc dans lesquels on n'urbanise pas, a priori, massivement. On y fait des aménagements. On parlera de différents aménagements liés aux énergies renouvelables, mais il y a également des aménagements liés à l'exploitation forestière ou agricole. Mais il faut regarder les choses positivement. Si on sait qu'une piste peut être nocive du point de vue de la circulation de l'eau et du respect des sols, on peut utiliser des techniques respectueuses et essayer de limiter au maximum cette artificialisation des sols. Il y a un objectif national qui s'appelle zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on se fixe comme objectif qu'à échéance de 10, 20 ans maximum, il n'y aura plus aucun point de sol de la région qui sera artificialisé si on ne le compense pas par une réhabilitation quelque part.
Alors, en quoi les territoires du sud de Languedoc sont impactés par ce qui se passe ici ?
Bien, je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, je l'ai évoqué simplement. Du point de vue climatique, c'est évident que les forêts, par exemple du Haut-Languedoc, ont un rôle dans la régulation, à la fois dans la fixation du carbone, donc un effet sur la qualité de l'atmosphère. Ils ont un rôle dans la régulation des vents également. Donc tous ces milieux naturels contribuent non seulement localement là où ils se situent, mais sur un espace plus large qui est l'espace languedocien en général, donc sur les plaines qui entourent le Haut-Languedoc. Il faut qu'on fasse très attention à la manière dont on s'occupe de cette nature, quel type de relation on a avec cette richesse du Haut-Languedoc, parce que tout a un effet papillon, aile de papillon, sur l'environnement, même jusque dans la plaine.
Alors, on a parlé de la forêt, c'est des arbres, les arbres, c'est du bois. Tendance qui s'amplifie de plus en plus, c'est d'exploiter ce bois. Est-ce qu'ici, dans le Haut-Languedoc, on exploite ces forêts de manière intelligente ou pas intelligente du tout ?
Alors, il faut dire que dans le Haut-Languedoc, depuis l'après-guerre, on a boisé plus de 10 000 hectares en résineux. On a planté là où c'était des landes et où donc le régime écologique était totalement différent. Donc, on a modifié considérablement les écosystèmes. Maintenant, ces forêts, ces plantations existent et elles n'ont pas été plantées simplement pour les regarder pousser. Il est évident que quand on a planté tous ces résineux, ces 10 000 hectares de épicéa, Douglas surtout, c'était en vue de créer une activité, toute une filière bois derrière. La question, c'est de savoir comment on organise cette filière bois. C'est-à-dire, est-ce qu'on le traite comme un champ de maïs, c'est-à-dire qu'on le coupe, puis on replante, on coupe, on replante, c'est-à-dire qu'on laisse de grandes surfaces exposées au soleil, à l'érosion, à la déshydratation, à la destruction de toute la biodiversité qui existe, parce que vous l'exposez tout d'un coup à des changements climatiques brutaux, ou est-ce qu'on va avoir une gestion beaucoup plus continue ? Et c'est une réflexion que mènent y compris la plupart des forestiers aujourd'hui, de gérer différemment, d'arrêter de faire des coupes à blanc de grandes surfaces, mais peut-être plus de faire des exploitations plus fines, en continu, et peut-être d'irrégulariser petit à petit la forêt pour qu'on n'ait pas des forêts toutes plantées de la même espèce, des clones qui sont beaucoup plus vulnérables. La biodiversité, justement, c'est cette diversité génétique aussi qu'on oublie souvent. Si on oublie que la génétique, la diversité génétique, c'est la survie, la condition de survie des milieux, et la nôtre aussi, puisque le brassage des populations est essentiel dans tout le vivant, que ce soit l'humain ou que ce soit la nature, que ce soit les espèces sauvages, si on empêche et si on réduit les habitats de la faune vivante, on risque de détruire la génétique et on risque d'appauvrir et de mettre en danger le vivant.
Alors ces menaces, est-ce que les pouvoirs publics ou les élus du territoire sont sensibles à ce que vous nous décrivez ?
Il y a une grande prise de conscience, oui. Aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience qui ne se traduit pas forcément tout de suite, c'est évident. On a toujours un peu de retard entre les idées qui circulent et puis les pratiques. Donc, il y a des apprentissages, il y a de la pédagogie, il y a de la formation à faire. C'est un très gros travail pour qu'on passe de mauvaises habitudes que nous avions parce que tout nous paraissait facile, tout nous paraissait exploitable. Et aujourd'hui, compte tenu des changements importants climatiques, des risques de perte grave de biodiversité, on ne peut plus continuer certaines pratiques. Il faut qu'on apprenne à changer nos usages, nos pratiques, nos relations à la nature.
Alors, France Nature Environnement, avec d'autres, je suppose, associations de défense de l'environnement, je suppose que vous vous battez pour lutter contre ces menaces.
Alors, se battre, c'est épuisant de se battre. Hein.
Vous mobilisez. Alors,
il y a plusieurs manières d'agir. C'est-à-dire que d'abord, il faut participer à tout le mouvement, c'est-à-dire l'accompagner, être présent chaque fois qu'il y a une réflexion positive qui s'engage, être auprès des élus, auprès des décideurs, auprès des professionnels. Non pas pour dire vous ne savez pas faire votre boulot, mais au contraire pour réfléchir avec eux et pour faire avancer ensemble les idées positives, les pratiques les plus favorables. Et puis après, quelquefois, il faut combattre, c'est-à-dire que quelquefois, il faut carrément attaquer, il faut dénoncer, il faut alerter, il faut même peut-être souvent attaquer juridiquement quand il y a des fautes graves qui sont commises.
Et c'est le cas ici ?
C'est le cas. Bon, on verra, je crois qu'on parlera tout à l'heure du combat qui est mené contre certaines pratiques dans le développement des énergies renouvelables. Et puis ça peut être le cas aussi sur certaines pratiques forestières ou sur certaines pratiques dans la gestion des cours d'eau aussi. Hein. On a attaqué il y a 3 ans EDF pour avoir fait des lâchers d'eau sur la goutte, des lâchers de boue pour drainer un barrage, des lâchers massifs qui ont entraîné des destructions massives des frayères de truites. Donc ça, quand il y a des pratiques, que ce soit des pratiques de petites, d'individus ou des pratiques de société, il faut là qu'on soit en alerte et qu'on soit capable d'attaquer juridiquement.
Alors vous qui vous mobilisez depuis quelques années sur ces problématiques, est-ce que vous diriez que encore une fois, il y a d'un côté les paroles et de l'autre côté les actes ?
Ben, l'un côté et l'autre côté, c'est surtout le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer longtemps à adopter ou à ne pas changer nos pratiques ? Je crois qu'il n'y a qu'une question d'urgence. Alors, on l'aperçoit intellectuellement, la notion d'urgence, mais dans la pratique, c'est vrai que ça entraîne de tels bouleversements dans les réseaux économiques, dans les raisonnements économiques, dans les pratiques, etc., dans les choix qui sont faits, dans les choix politiques, qu'on réalise que c'est pas qu'il y ait des bons et des mauvais, c'est qu'on ne prend pas suffisamment la mesure de l'urgence et les mesures à prendre dans l'urgence.
Et pourtant, en cette période électorale, on a l'impression que tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est tous des écologistes, ils défendent tous le climat.
Oui, ça c'est bien d'être tous verts, ça c'est une bonne couleur actuellement, c'est la couleur qui plaît, qui semble indispensable pour se faire bien voir de l'électorat, mais ça ne suffit pas, hein, de se colorer en vert, de se verdir, ça ne suffit pas, hein, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin.
C'est quand même la première fois qu'un gouvernement a été condamné pour inaction climatique.
Oui, ce qui prouve bien qu'il y a un écart entre les apparences de verdissement, d'affirmation qu'on travaille dans le sens de l'écologie et puis la réalité qui est constatée dans les décisions politiques.
Alors ce combat, c'est tous les jours ? Il se passe des choses ici, dans cette région ?
Oui, il se passe tous les jours quelque chose, c'est-à-dire que tous les
jours... Est-ce que vous avez des rendez-vous à nous donner, par exemple ?
Ah ben écoutez, on peut donner des rendez-vous positifs. Je vais vous parler du 15 mars, par exemple, ou à Brassac. Juste à côté, ici, sur le versant atlantique du parc et du Haut-Languedoc, il y a une réunion qui est faite par une initiative locale pour essayer de réfléchir à des pratiques forestières vertueuses, pas vertes, mais vertueuses, qui pourraient nous amener à être un peu plus en bonne relation avec nos forêts. Voilà. Donc j'invite ceux qui veulent y aller le 15 mars à Brassac, à la salle de la Marquise, à 20h. Voilà.
Emmanuel Forichon, merci.
Merci.